Paul Rocher, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes économiste, diplômé en sciences politiques de Sciences Po Paris, et vous avez publié en 2020 un livre intitulé « Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale » aux éditions La Fabrique. Alors, pour vous, est-ce qu'il y a eu un élément particulier, un événement particulier qui vous a motivé, que vous vous décidiez d'entreprendre cette étude de la politique de l'arme dite non létale ?
Comme vous venez de le dire, je suis économiste et en tant que tel, j'observe aussi les politiques économiques et le constat s'impose qu'elles tendent clairement vers plus de libéralisation, moins de protection pour les travailleurs, un chômage chronique, un emploi de plus en plus précaire. Et au vu de cette dynamique qui au final produit une répartition des richesses à l'envers, des pauvres vers les riches, eh bien, on pouvait supposer une réaction plutôt négative au sein de la population. Je me suis donc également intéressé à la manière dont la population recevait ces différentes réformes économiques des dernières années. Et effectivement, on observe que la population conteste. Et force est de constater que depuis un certain nombre d'années maintenant, les mobilisations déclenchent à chaque fois un renouvellement du débat sur les violences policières. Et le constat des violences policières conduit ensuite à s'interroger sur les outils qui rendent possibles ces violences policières. Et l'outil principal, pas le seul, mais l'outil principal de ces violences, ce sont les armes dites non létales. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des recherches sur les armes non létales et j'ai décidé finalement, de faire une étude un peu plus approfondie sur ce type d'armes par insatisfaction avec la manière dont le sujet était traité à la fois par des scientifiques et dans le débat public. Et ces armes sont aujourd'hui effectivement omniprésentes dans les mobilisations, dans les manifestations, et elles sont généralement présentées par les gouvernements comme un instrument garantissant un maintien de l'ordre plus humain, plus éthique. Et en même temps, ces armes sont sous le feu des critiques. Ça, on le voit assez régulièrement maintenant. On interroge la légalité d'un tir de balle en caoutchouc. On interroge la proportionnalité de distribuer un grand nombre de coups de matraque. On interroge la nécessité de saturer tout un espace avec du gaz lacrymogène. Et aussi salutaire qu'elle soit, cette attention médiatique inédite envers les violences de l'État, eh ben, elle reste souvent cantonnée à une discussion d'actes de policiers individuels. Et j'avais le sentiment que la discussion reste donc seulement à la surface d'un phénomène plus profond et cette discussion se montre donc en quelque sorte incapable de rendre compte de la logique qui anime cette escalade des violences policières à laquelle on assiste aujourd'hui. Et pourtant, il y avait urgence, il me semblait, à comprendre ce phénomène. Juste pour terminer avec un chiffre, en à peine 10 ans, le nombre de tirs de balles en caoutchouc, donc les fameux LBD-40, le nombre de ces tirs a été multiplié par 480. En 2018, la police a tiré plus de 19 000 fois sur la population civile. C'est comme si elle avait tiré sur un habitant sur deux d'une ville comme Arras.
Alors justement, vous reprenez à votre compte, je suppose avec des guillemets, en tout du moins abstraitement, cette expression d'armes non létales. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'armes non létales ? On imagine bien d'ailleurs que des armes létales peuvent ne pas tuer et que des armes non létales, justement, peuvent tuer. Est-ce qu'il ne faut pas soumettre cette expression même à la critique ?
Alors, vous mettez le doigt sur un point qui est assez important. Alors, officiellement, la définition de l'arme non létale, c'est qu'il s'agit d'une arme à effet limité, jamais mortel ni définitivement mutilant. Alors, la réalité nous apprend que ces armes peuvent tuer, qu'elles mutilent régulièrement et que d'ailleurs elles causent aussi des séquelles psychologiques, alors qu'on parle là seulement d'effets physiques, mais il faut jamais oublier les deux. Donc effectivement, officiellement, ces armes-là ont l'air de ne pas être très dangereuses, parlent d'armes non létales et la réalité nous montre que ces effets sont en effet mortels et mutilants. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça interroge, est-ce qu'il est pertinent de parler d'armes non létales? Et on pourrait enchaîner, on pourrait dire, bah, un élément qui est assez marquant dans le débat autour des armes dites non létales, c'est qu'on a tout un vocabulaire euphémisant autour de ces outils-là. Hein, on dit que les armes non létales neutralisent, qu'elles ont des effets incapacitants ou irritants. Le nom officiel de la balle en caoutchouc, donc la balle qui est tirée avec le fusil LBD, c'est balle de défense. Et la grenade à fragmentation, la grenade de désencerclement, bah son nom officiel, c'est dispositif manuel de protection. Et comme je viens de le dire à l'instant, les fusils LBD 40, on les appelle pas les fusils, on les appelle les lanceurs LBD 40. Donc on a tout un vocabulaire qui rend finalement qui euphémise la réalité de ces armes-là. Et donc, de quelles armes parle-t-on? Donc, des balles en caoutchouc qui sont projetées avec le LBD 40. On parle du gaz lacrymogène, on parle du canon à eau, on parle aussi d'un certain nombre de grenades, les grenades assourdissantes, les grenades de désencerclement. Alors, celles et ceux qui vont en manifestation connaissent ou commencent à connaître maintenant ce vocabulaire qui, jusqu'il y a quelques années, était en réalité assez confidentiel. Il y avait seulement les spécialistes du maintien de l'ordre qui connaissaient ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus large. Mais voilà, je donne un peu les noms comme ça pour permettre aux auditeurs aussi de savoir un peu de quoi est-ce qu'on parle concrètement. Et donc, l'élément commun de toutes ces armes serait donc des effets jamais mortels ni mutilants. Mais on a vu donc que ces armes peuvent mutiler, qu'elles peuvent tuer. Donc pourquoi serait-il pertinent encore de parler d'armes non létales? Et ce qui est intéressant, c'est que le vocabulaire utilisé par le ministère de l'Intérieur et les différents gouvernements, plus généralement, ce qu'ils font, c'est que maintenant, ils parlent plus tellement d'armes non létales. Parfois, l'expression leur échappe, mais généralement, ils parlent d'armes intermédiaires, parlent d'armes moins létales. Donc effectivement, il y a là la reconnaissance qu'en réalité, ces armes ne sont pas non létales. Mais il me semble quand même qu'il y a une bonne raison pour maintenir le terme de non létal, à savoir que c'est sous ce nom-là que ces armes ont été introduites à grande échelle, notamment à partir des années 90 en France. On pourrait penser, par exemple, on pourrait se rappeler qu'au moment où les premières balles en caoutchouc, les flashballs ont été introduites au milieu des années 90. Un journal comme Libération titrait « C'est l'arrivée des balles en mousse ». Alors, ça a l'air presque ludique, une balle en mousse. En aucun cas, ça a l'air dangereux. Et c'est précisément pour montrer à quel point les gouvernements, en fait, ont essayé de présenter ces armes comme un outil pas dangereux du tout, que je maintiens en quelque sorte le terme initial. Donc, il montre en quelque sorte qu'il y a un décalage très important entre l'effet réel d'une arme et la manière dont le gouvernement présente l'arme. Donc, c'est en quelque sorte là déjà, insister sur non létal, c'est souligner que les gouvernements en quelque sorte ont essayé d'exposer la population à des armes très dangereuses sans l'assumer publiquement. Et ensuite, et ça, on va le creuser peut-être par la suite. Eh bien, il y a un problème inhérent au fait de désigner une arme par ses propriétés techniques, alors qu'en réalité, ce qui rend dangereuse une arme, c'est son utilisation, c'est son utilisateur. Mais on reviendra peut-être là-dessus
Oui,
par la
alors,
suite.
oui, justement, dans votre livre, Paul Rocher, vous précisez un peu la démarche que vous avez suivie, qui est une démarche assez originale. Vous voulez aborder la question par le caractère des moyens employés, donc de l'outil de l'arme, plutôt que par les fins poursuivies. Et vous cherchez à contribuer à ce que vous appelez une théorie de l'arme, c'est-à-dire cerner les effets en retour des armes non létales sur l'action dont elles sont censées être le moyen. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette démarche?
Alors effectivement, généralement, quand on discute d'armes, on discute avant tout, et c'est pour des bonnes raisons, hein, on discute avant tout du but poursuivi par les armes. Donc on va dire, bah, les armes non létales servent à réprimer la population, servent à réprimer la contestation, ce qui est parfaitement juste, mais n'épuise pas la question et ne nous aide pas pleinement à comprendre pourquoi on a une explosion des violences policières par recours aux armes non létales. Donc c'est ça la question que je m'étais posée. Comment expliquer cette escalade des violences policières par armes non létales? Et donc là, je suis une démarche qui a été esquissée pour la première fois par Simone Veil dans l'entre-deux-guerres. Et donc elle dit, eh ben, pour comprendre le fonctionnement d'une arme, pour comprendre une arme, eh ben, il ne faut pas se contenter d'analyser le but poursuivi, il ne faut pas se contenter d'analyser la répression, mais il faut interroger les caractéristiques propres d'une arme, parce que ces caractéristiques de l'arme peuvent ensuite façonner, en fait, la poursuite de l'action à laquelle sert une arme. Autrement dit, pour le dire plus concrètement, la démarche que j'ai adoptée dans mon livre, dans Gaz et mutilés soumettre, c'est de s'interroger dans quelle mesure la disponibilité des armes non létales change le comportement de celles et ceux qui les utilisent. Donc, dans quelle mesure disposer d'une arme non létale change le comportement des forces de l'ordre. Et là, je développe donc une idée force du livre, à savoir que la disponibilité même des armes non létales conduit les forces de l'ordre à frapper, à gazer, à tirer davantage et plus vite. Donc la banalisation de l'usage des armes non létales finalement rend absurde le discours gouvernemental selon lequel les armes non létales permettraient un maintien de l'ordre plus doux, plus humain. Au contraire, les armes non létales produisent la brutalisation du maintien de l'ordre. Donc c'est cette idée, qui me semble vraiment centrale, que je pouvais développer en m'interrogeant justement sur la manière dont la disponibilité des armes non létales change le comportement des forces de l'ordre. Et ça a des implications assez importantes. En ce moment, on discute, le ministère en discute aussi, timidement, de l'idée de trouver un meilleur encadrement réglementaire des armes non létales. Donc, l'idée, ce serait de dire, bah, si les policiers sont violents, c'est parce qu'on n'a pas vraiment bien codifié l'utilisation des armes. Et là, justement, par la théorie de l'arme, on peut montrer qu'en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, ce ne sont pas les policiers qui utilisent mal leurs armes. Le problème vient de l'arme en tant que telle. L'arme non létale, sa simple disponibilité, incite les forces de l'ordre à tirer plus. Et donc le problème se situe au niveau de l'arme en tant que telle. Il n'y a pas de possibilité de l'encadrer autrement.
Alors, vous l'avez déjà évoqué précédemment, la violence d'État est marquée par cette émergence massive de l'emploi des armes non létales. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi correspond cette émergence et puis l'illustrer par une des armes qui est traditionnelle ou symbolique des armes non létales, le gaz lacrymogène?
Alors c'est très important aussi de faire effectivement un peu l'histoire des armes non létales. Alors les armes non létales sont assez récentes dans l'histoire des armes, si on met de côté la matraque. Et donc prenons l'exemple du gaz lacrymogène. C'est un bon exemple, c'est une invention française. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On se situe entre la fin du 19e, début 20e siècle, avec un mouvement ouvrier en consolidation revendicatif et qui assez vite a été identifié comme un fauteur de troubles par les gouvernements successifs. Et Dans ce contexte-là, bon, il y avait effectivement la possibilité de réprimer très férocement les mobilisations ouvrières par les fusils, et ça a été abondamment fait, mais avec ce risque que ça incite à plus de contestation. Et donc, les dirigeants français se sont interrogés sur une manière plus efficace de réprimer. Et le résultat de cette réflexion qui était menée donc avec des spécialistes, avec des ingénieurs, c'est le gaz lacrymogène qui a été développé autour de 1912. Alors 1912, voilà, l'arme est là, l'objectif est clair, réprimer le mouvement ouvrier. Intervient ensuite un peu le hasard de l'histoire, intervient donc la Première Guerre mondiale assez rapidement, et donc là, le gaz lacrymogène va passer d'une arme du maintien de l'ordre interne à une arme de guerre. Donc la France, l'armée française, va utiliser le gaz lacrymogène dans le cadre de la guerre des tranchées. Donc elle envoie le gaz lacrymogène dans les tranchées de l'armée allemande, notamment pour obliger les soldats allemands de sortir des tranchées pour pouvoir leur tirer dessus. L'armée allemande est assez impressionnée par l'efficacité de ce nouvel outil. Et développe donc aussi son propre gaz de guerre, un gaz encore plus toxique. Bref, donc on a effectivement là le gaz lacrymogène qui est une arme de guerre, mais qui après la guerre va aussi entraîner la mise en cause du gaz lacrymogène. Les soldats, par milliers, ont un souvenir horrible de ce gaz-là. Et donc, il y a une contestation de cette arme-là qui va assez rapidement aboutir à l'interdiction du gaz lacrymogène dans le cadre de la guerre. Donc on a une convention de Genève de 1925 qui interdit le gaz lacrymogène, mais interdire le gaz lacrymogène dans le cadre de la guerre, ça signifie interdire le gaz lacrymogène dans le cadre d'un affrontement armé entre deux entités reconnues comme souveraines. Les colonies ne sont pas reconnues comme souveraines, et donc là, c'est en quelque sorte la troisième étape du gaz lacrymogène qui devient donc une arme de répression coloniale, va être très vite utilisée dans tout l'Empire britannique. Donc là, ça devient une arme aussi de gestion coloniale, même si dès la crise des années 1930, le gaz lacrymogène revient dans les métropoles où il est à nouveau à présenter comme une arme qui empêche de voir le degré de répression. Un des fabricants américains de gaz lacrymogène fait même sa pub avec cette idée-là. Il faut se rappeler, c'est la période de la montée en puissance de la photographie, et avoir des photos de personnes avec des plaies ouvertes, ça fait pas bonne presse, alors que les effets du gaz lacrymogène, on les voit beaucoup moins bien sur des photos. Et donc là, on a une interaction aussi en quelque sorte entre la répression et la communication politique, dans le but de réprimer le plus efficacement possible. Et on peut continuer l'histoire des armes non létales, on peut faire une extension beaucoup plus large. Et c'est le premier chapitre de mon livre. Et ce qui apparaît assez nettement, c'est que quand on fait l'histoire, on voit très clairement aussi que ce n'est pas la préoccupation pour la santé de la population civile qui est au fondement de la démarche des gouvernements pour introduire des armes non létales. Non, si les gouvernements cherchent à introduire des armes non létales, c'est parce que ces armes-là sont particulièrement efficaces dans la répression. Ce n'est pas la santé de la population qui compte, c'est l'efficacité répressive.
Alors Paul Rocher, dans votre livre, vous faites l'effort de dresser un panorama extrêmement précis de l'étendue de ces armes non létales. Vous les classez suivant leur fonctionnement et leurs effets acoustiques, cinétiques, etc. Bon, on ne va pas évidemment ici dresser ce tableau avec vous, mais est-ce que vous pouvez nous en donner un petit aperçu? Et puis, est-ce que, en regard du travail que vous avez fait, est-ce qu'il y a des théoriciens de l'arme non létale parmi les gens de l'État?
Alors, commençons par le petit panorama rapide. Donc, effectivement, pour les lecteurs moins familiers avec les détails des armes non létales, je propose effectivement un tableau qui classe les armes selon leur effet principal. Donc, on a les armes cinétiques. Le terme de cinétique renvoie à l'impact d'un objet en mouvement sur un corps. Donc, typiquement, ça peut être la matraque, ça peut être la balle en caoutchouc, donc la balle qui avant était propulsée par le flashball, maintenant par le LBD 40. On a aussi le canon à eau dans cette catégorie-là, et le jet d'eau, à nouveau, peut être extrêmement douloureux, peut entraîner des mutilations. Mais on a aussi dans cette catégorie les différentes grenades, grenades de désencerclement, grenades assourdissantes. Et à chaque fois, donc, je présente pour chaque type d'arme un peu les caractéristiques principales. Et je montre aussi qu'en fait, pour chaque catégorie, on a des cas documentés, et pas seulement en France, on parle d'un phénomène mondial, on a des cas documentés de personnes avec des mutilations et avec des blessures mortelles. Donc ça, c'est important aussi à garder à l'esprit que le problème, il a été constaté en France, mais aussi ailleurs. Ensuite, on peut passer à un autre type d'armes, typiquement les armes chimiques. On a le gaz lacrymogène qui est très, très largement utilisé en France. On a aussi mais ça, c'est plutôt au stade de la recherche, les idées de jeter des substances collantes ou liquides sur les manifestants ou encore des substances malodorantes. Donc, la chimie est effectivement un des terrains sur lequel misent les différents gouvernements. Ils espèrent que dans le futur, de nouvelles armes chimiques pourront rendre le maintien de l'ordre plus efficace. Donc ça, c'est effectivement une sorte de tendance que les gouvernements essayent de poursuivre, même si pour l'instant, ça donne pas trop de résultats. C'est intéressant. Ensuite, on a aussi les armes électriques, dont le pistolet à impulsion électrique est le plus connu. Alors, le nom le plus connu, c'est le taser. Alors, le taser, il n'est pas directement autorisé dans le cadre du maintien de l'ordre, mais il peut être utilisé à proximité pour, soi-disant, immobiliser des manifestants. Et on a vu des gilets jaunes qui, effectivement, ont subi des électrochocs par l'arme électrique au bord des ronds-points. On a aussi les armes acoustiques. Et souvent, en fait, les différentes grenades ont des effets multiples. La grenade assourdissante, par exemple, a un effet cinétique. Elle projette des morceaux dans toutes les directions. Mais elle a aussi un effet acoustique parce que sa détonation est extrêmement bruyante et peut causer des lésions auditives à ce titre-là. Ensuite, on a des armes, mais qui sont plus des armes du futur, des armes optiques ou à énergie dirigée, qui finalement reposent sur l'idée que par l'utilisation de lumières très irritantes ou de lasers, on pourra empêcher les manifestants de manifester ou en tout cas fortement encadrer cette possibilité-là. Et ce qui est assez important aussi quand on fait ce panorama, c'est que à chaque fois on a déjà de la recherche, que ce soit dans l'espace anglophone ou germanophone, on a de la recherche qui nous montre que ces armes-là n'ont pas les effets qu'on nous présente. Ces armes-là, régulièrement, on trouve qu'elles ont des effets mutilants, qu'elles ont des effets mortels. Et il y a même une étude d'un physicien qui est assez récente qui dit, bah, en réalité, à chaque fois, il dit, j'ai testé un certain nombre d'armes non létales différentes et à chaque fois, le résultat était le même. Les effets réels de ces armes-là ne sont pas les effets annoncés, par ceux qui vendent le produit.
Alors, vous l'avez déjà indiqué dans vos précédentes interventions, et c'est plutôt contre-intuitif, il semble, et vous l'affirmez en tout cas, que l'utilisation des armes non létales conduit en fait à un accroissement de la violence d'État, de la violence policière. Autrement dit, cette violence policière n'est pas liée à un phénomène qui serait la montée par contre de la violence des manifestants.
Alors là, les chiffres sont très nets et il est effectivement utile de commencer par les faits. Alors, quels sont les faits? On a en 2018 une police française qui a officiellement tiré près de 33 000 fois avec des armes non létales sur la population civile. 33 000 fois, 33 000 tirs, toutes les armes non létales confondues. Autrement dit, on a une multiplication par 9 du recours aux armes non létales sur la période qui va de 2009 à 2018. Pour le LBD-40, donc pour les balles en caoutchouc, on a une augmentation autrement plus spectaculaire parce qu'on a une multiplication du recours aux balles en caoutchouc, donc du recours au LBD-40 qui est de 480. Autrement dit, on a vraiment une explosion du recours aux armes non létales. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et ça, c'est assez bien documenté par des chercheurs spécialisés dans les mouvements sociaux, mais aussi dans la police et le maintien de l'ordre, ce qu'on voit, c'est que les manifestants ne sont pas plus violents que dans le passé. Donc on a à peu près une stagnation. Il y a des anecdotes, des images spectaculaires, mais l'effet général, agrégé, c'est une stagnation. Donc on a ces deux choses-là, une augmentation extrêmement importante du recours aux armes non létales, alors que la population, elle reste au même niveau en termes de violence, qui reste assez faible. Et j'ajoute à cela que les chiffres sur le recours aux armes non létales que j'utilise sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, et on sait que ces chiffres-là sous-estiment le phénomène. Typiquement, d'après le ministère de l'Intérieur, en 2016, qui était l'année notamment de la mobilisation contre la loi travail, en 2016, aucune grenade de lacrymogène n'aurait été tirée. Alors évidemment, ce chiffre est totalement faux, mais je travaille avec ces chiffres-là, et même si on utilise donc les chiffres totalement sous-estimés du ministère, on arrive à montrer une explosion, multiplication par 9 du recours aux armes non létales. Donc voilà les faits. Ensuite, comment expliquer ça? Et comment mettre un lien entre ces faits-là et la logique de l'arme non létale? Eh bien, le terme d'arme non létale sous-entend que les armes faisant partie de cette catégorie seraient, par définition, incapables d'infliger des blessures graves. Or, en réalité, cette non-létalité, est déjà conditionnée à des consignes d'utilisation très précises. Donc, l'arme n'est pas non-létale par nature. Je ne vais pas approfondir ce point-là. Je vais aller directement au point principal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une arme qui est qualifiée comme non-létale. Et ensuite, il faut bien comprendre que l'arme ne se contente pas d'ajouter une option à l'arsenal policier. Ce que fait une arme quand on donne une arme à un policier, c'est pas seulement qu'on lui donne une arme, mais on lui transmet aussi un message. Et donc, quel est ce message? Eh ben, c'est un message qui va changer le comportement du policier. Ainsi, suggérer qu'une arme est par définition non létale, donc quelque part anodine, incite les forces de l'ordre à y recourir avec plus de facilité. Donc c'est en suggérant la non-létalité qu'on transmet le message au policier qu'il peut utiliser, qu'on l'incite à utiliser cette arme, puisque de toute façon, il ne pourra pas y avoir de conséquences graves. Il y a donc une déresponsabilisation qui est inhérente à la catégorie d'armes non létales. Et à cela s'ajoute, et ça c'est bien étudié aussi dans la littérature scientifique, à cela s'ajoute le fait que dès lors qu'un policier est équipé en armes, est équipé en armes non létales, a confiance en sa capacité à gérer une situation par la force s'accroît. Donc en fait, l'arme non létale conduit pas à moins utiliser les armes à feu, parce que l'utilisation des armes à feu augmente même. Ce que fait l'arme non létale, c'est qu'elle remplace les techniques de gestion de conflits qui seraient non violentes. Donc, on a, avec l'arme non létale, un multiplicateur de la force. Donc, les policiers sont incités à utiliser cette arme plutôt qu'autre chose. Et en plus, ils ont l'impression que de toute manière, cette arme n'entraîne pas de risque, n'entraîne aucune conséquence grave puisqu'elle est non létale. Et à cela s'ajoute, si on veut creuser un petit peu aussi la question de l'impunité qui est assez largement entretenue, qui fait que les policiers sont rarement inquiétés. Donc c'est cette dimension, je la creuse aussi dans le livre, mais l'effet principal vient de l'arme en tant que telle.
Alors, vous considérez le recours aux armes non létales comme étant un choix technique, mais inscrit dans un projet politique. Et ce projet politique est lui-même, du coup, en retour, façonné par, ce choix technique. Vous parlez d'État autoritaire et, vous appuyez au niveau théorique sur, la notion de crise d'hégémonie. Évidemment, on pense à Gramsci. Et vous vous différenciez des analyses du type l'État est partout, c'est-à-dire nulle part, ou l'État aujourd'hui, c'est un état d'exception permanent. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce soubassement théorique de votre point de vue?
Alors là, on revient peut-être un peu, enfin, réémerge un peu mon côté économiste. La manière dont j'analyse les choses, c'est que cet étatisme autoritaire qu'on observe aujourd'hui en France est très directement lié à des transformations économiques. Alors, on parle souvent de néolibéralisme, le terme est assez répandu, et ce qui me semble important, c'est de bien garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement d'une transformation économique, mais aussi politique. Alors, je m'explique. Du point de vue de Gramsci, l'État, il peut agir de deux manières. Il peut agir par le consentement, il peut agir par la force. Généralement, l'État agit par un mélange des deux. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je me différencie par rapport à ceux qui disent que on est dans l'état d'exception permanent, parce qu'il y a bien aussi la dimension du consentement qui joue toujours un rôle, même si c'est de manière plutôt secondaire et moins importante. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité pour l'État, donc pour les différents gouvernements qui se succèdent depuis une quarantaine d'années, et plus fortement depuis les 20 dernières années, on a la possibilité de susciter le consentement de la population vis-à-vis de l'ordre établi. Sauf que le problème, c'est que le néolibéralisme, si on essaie de le définir en une phrase, c'est précisément cette répartition des richesses à l'envers, où on prend aux pauvres et qu'on donne aux riches. Et une telle dynamique, elle est peu propice à susciter un consentement spontané dans la population. Donc la population va être de moins en moins encline à consentir à l'ordre en place. Reste donc l'option de la force. L'option de la force, effectivement, elle est assez efficace dans le sens où le recours à la force est assez intimidant. Le problème, c'est que le recours à la force peut en quelque sorte aussi miner l'ordre en place, puisque réprimer férocement peut en quelque sorte inciter, renforcer la contestation à nouveau. Et donc face à cette difficulté-là, où la force ne paraissait pas super pratique, la voie du consentement était bloquée par le projet politique même, eh ben, les gouvernements cherchaient une solution à cette contradiction et ils pensaient trouver la solution dans les armes non létales qui remplissaient en quelque sorte une promesse de solution technologique miraculeuse réprimée sans faire de dégâts. Et donc les gouvernements, et c'est pas seulement en France, on le voit dans d'autres pays, depuis les années 90, ont effectivement massivement acheté des armes non létales, au point où la France aujourd'hui dispose effectivement d'une panoplie assez diverse et qu'elle dépense toujours plus pour les armes non létales. Rien que pour la période de 2012 à 2017, eh ben les stocks d'armes non létales ont augmenté de 75% en seulement 5 années, un quasi-doublement. Et comme toujours avec les chiffres officiels, eh ben, les chiffres sous-estiment la réalité, prennent en compte seulement une partie de la réalité. Donc on a là un État qui mise massivement sur les armes non létales. Et pourquoi il fait ça? Ben parce que précisément, la population, elle est dans une situation où elle va être de plus en plus encline à protester, puisqu'elle vit de plus en plus dans des conditions de plus en plus difficiles. Et donc, on a régulièrement, effectivement, la contestation qui éclate, et on a des mesures aussi pour freiner. Alors, la mesure qui tend les mobilisations dans la rue est la plus visible, c'est effectivement la présence policière et le recours aux armes non létales, mais l'étatisme autoritaire que j'analyse dans le livre, il est plus large. Il comprend aussi les interdictions de manifester, les interdictions de manifestation. On a quand même un nombre très important ces dernières années de manifestations interdites, par exemple. On a aussi une police qui intervient de plus en plus rapidement, qui restreint donc les possibilités pour la désobéissance civile. Donc on a tout un tas d'éléments qui finalement rendent l'État de plus en plus autoritaire, et ça s'inscrit en quelque sorte dans le projet néolibéral dans son ensemble. Et donc de ce point de vue-là, on a effectivement une rupture entre la période soi-disant des Trente Glorieuses, avec des augmentations de salaire relatives et qui est régulière, et les conventions collectives, tout un tas de mesures qui pouvaient effectivement générer le consentement. Maintenant, on a en quelque sorte l'effet inverse, de plus en plus de cette répartition des inégalités à l'envers, qui va de pair avec un État qui agit plus par la force que dans le passé.
Alors, une dernière question qui n'est d'ailleurs pas abordée dans votre livre, Paul Rocher, mais que j'aimerais bien que vous exprimiez à ce propos, c'est la question de la montée en puissance des polices municipales. D'ailleurs, avec la loi Sécurité globale, j'ai noté que les compétences de ces polices municipales allaient augmenter. Et il faudrait aussi parler d'ailleurs des polices privées qui sont prévues dans cette loi. Comment vous analysez cette montée des polices municipales avec la question de armement, pas armement, etc.
Alors, comme vous venez de le dire, la loi Sécurité globale a un peu remis la question des polices municipales sur le devant de la scène, donc avec des nouvelles compétences. Donc, en réalité, la police municipale se rapproche de plus en plus de la police nationale, peut maintenant verbaliser, immobiliser des véhicules. On a vu aussi récemment que des policiers municipaux ont été utilisés dans le cadre du maintien de l'ordre. Donc on voit que les compétences de la police municipale augmentent. Alors quel est l'effet quand on inscrit la question de la police municipale dans la question de la police plus généralement en France? Eh ben, on a finalement une police municipale qui prend de plus en plus de tâches qui auparavant étaient assumées par la police nationale, de sorte à libérer la police nationale pour d'autres tâches, pour en quelque sorte multiplier les capacités répressives de la police nationale, et donc à multiplier aussi le potentiel violent, puisque, comme vous venez de le dire, de plus en plus de polices municipales sont armées, soit par des armes non létales, soit carrément avec des armes à feu. Et si on regarde un peu la tendance, on a là une évolution très marquée. Au milieu des années 90, on avait à peu près 11 000 agents de police municipale. Aujourd'hui, on en a à peu près 33 000. Donc, on a eu un triplement en seulement 20 ans. Donc, ça, c'est un fait très notable. Donc, on a un triplement des effectifs qui se combine avec une augmentation des capacités, des compétences de ces mêmes agents qui sont de plus en plus armés aussi, effectivement. Donc on a cette évolution-là et qui s'inscrit dans une évolution plus générale d'augmentation très très forte des dépenses publiques pour les services de police. Donc là, à l'encontre de cette idée assez largement répandue selon laquelle l'austérité toucherait l'ensemble du service public, la police est une exception assez notable. On a une augmentation continue des dépenses pour les services de police, de sorte à ce qu'effectivement la part des dépenses publiques pour la police est en augmentation. Et donc, on voit là que depuis les années 90, on a aussi une augmentation du nombre de policiers nationaux. On a donc une augmentation des policiers municipaux. Donc, on a là très clairement une tendance vers un encadrement, vers une emprise policière très forte de la population et du pays. Et donc, on peut effectivement s'interroger sur ce que ça veut dire pour une démocratie si en seulement 20 ans, on triple le nombre d'agents de police municipale, si on augmente assez fortement aussi le nombre de policiers en général. Donc ça, ce sont des questions de démocratie qui effectivement méritent d'être creusées. Et effectivement, plus vous avez des hommes armés qui agissent par l'autorité et qui se conçoivent eux-mêmes comme étant un bloc opposé à la population civile, bah plus on se trouve dans une situation conflictuelle dans le pays.
Alors nous arrivons au terme de cet entretien. Nous étions donc en compagnie de Paul Rocher, auteur du livre intitulé Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale, publié aux éditions La Fabrique. Un dernier mot, cet entretien sur Radio PFM se fait dans le cadre du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale du 1er mai à Arras. Alors cette expression, livre d'expression populaire et de critique sociale, Paul Rocher, vous y reconnaissez?
Oui, tout à fait. Alors, il me semble qu'effectivement, la recherche, elle vise à comprendre, à mieux comprendre la société. Et de ce point de vue-là, elle interroge aussi les idées reçues. Donc, elle est critique et effectivement, elle est populaire aussi.
Alors Paul Rocher, merci beaucoup et au revoir. Bon 1er mai.
Merci, au revoir.
Mm-hmm.